En cette fin d'émission, il y a Raymond Poirier qui se joint à nous pour une nouvelle chronique. Raymond, t'es là puisque t'es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval, et tu vas nous parler de technologie de l'information.
Effectivement, il y a un lien entre le poste et le sujet de la chronique. Il faut dire, en fait, donc, que l'Institut de technologie de l'information et société, en trois mots, c'est un institut qui est affilié à l'Université Laval, qui est sous responsabilité de l'Université Laval, et nous, on regroupe plus de 150 chercheurs, 28 centres de recherche qui travaillent dans le domaine des technologies de l'information, mais ça touche un peu à tous les domaines. Dans le fond, c'est tout ce qui se fait à l'aide de ces moyens là, qu'on parle de santé, qu'on parle de culture, qu'on parle d'éducation et d'intelligence d'affaires, de gouvernance, etc.
Mais je pense qu'à force de parler dans cette chronique, on va aussi se faire une bonne image de ce que c'est. Et d'ailleurs, la première thématique que tu nous abordes ce soir, en fait, le sujet, on parle de gouvernement 2.0.
Exactement. Mais en fait, c'est que tout récemment, on a reçu un rapport très intéressant de la firme Deloitte autour de cette thématique-là, un rapport qui s'appelle « Provoquer ou subir le changement, l'avenir de la collaboration gouvernementale et le web 2.0 ». Et on trouvait, l'équipe de travail trouvait que ce rapport-là résumait quand même de belle manière les différents enjeux qui sont liés à ce qu'on appelle le gouvernement 2.0. Bon, pourquoi le 2.0? Si un 2.0, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un 1.0. Donc, dans ce cas-ci, on parle du web 1.0. Ça, c'est quand on commençait à aller sur Internet...
Sur ICQ
ou sur le web, tout simplement, là, tout ce qui est fait avec du code HTML. Donc, du code qui nous permet de voir un site, de circuler à l'intérieur d'un site, qui nous permet aussi de faire quelques opérations de base, des opérations liées à l'achat en ligne, par exemple, inscrire notre adresse pour des changements d'adresse. Donc, des éléments comme ça, ça c'est le 1.0. Donc, un web qui est un peu plus statique et un Internet, si on veut être un peu méchant, un Internet qui peut être assimilé à essentiellement un babillard en ligne. En parallèle, c'est aussi, il faut dire qu'au départ, donc 96-2000, il y avait quand même une assez grande divergence entre les programmes informatiques et ce qu'on retrouvait sur Internet. Une divergence qui est moins palpable aujourd'hui quand on regarde ce qui se fait hors web et dans le web. Ben finalement, on a des beaux sites, on a des belles applications, on a une prise en charge rapide aussi de ces applications-là. On peut penser, bon oui, à tout ce qui est réseaux sociaux, ça c'est d'emblée ce qu'on associe au 2.0, c'est possible parce que les technologies logicielles sont applicables rapidement et parallèlement, il y a aussi tous les applications comme Google Maps par exemple, qu'on peut rentrer aussi dans l'apanage du 2.0. Donc des éléments comme ça qui nous permettent d'avoir accès à une information et qui rendent aussi l'information interactive. Donc qui permettent un contact direct soit entre deux personnes ou une personne, une entreprise, une personne, un gouvernement, ou un contact direct aussi et interactif entre la personne et une information.
Donc, on ne parle pas nécessairement d'une évolution, mais plus d'une modification.
D'une modification, d'une continuité, d'un changement culturel. En fait, il y a toujours beaucoup de débats quant à savoir d'où vient et où va le 2.0. On est déjà rendu à réfléchir le 3, le 4 et le 5.0 dans certains cercles. On y reviendra peut-être dans le cadre de ces chroniques. Mais ce qui est certain, c'est que présentement, on assiste à un changement culturel. C'est ce qu'on souligne dans le rapport de Deloitte, c'est ce qu'on souligne dans bien d'autres rapports. Aussi, en fait, notre relation avec le web et avec les infrastructures qu'on retrouve sur le web a changé. Donc, nos attentes face à une entreprise, face à une radio comme CKRL, face à un commerce, face à d'autres personnes, mais c'est de pouvoir facilement entrer en contact avec elles. Et on le voit, il y a des citoyens qui prennent en main ce changement de cap-là. On voit aussi, il y a des entreprises qui sont au devant dans ce changement de cap-là. Il y en a d'autres qui essaient de voir comment ils peuvent l'intégrer. Et ce que souligne Deloitte, c'est que lorsqu'on observe le gouvernement du Québec, notamment, eh ben lui, il est encore, de manière claire, nette et précise, au 1.0. Il a, pour l'instant, certaines difficultés à savoir comment appréhender le 2.0, comment l'intégrer. Il y a des réflexions qui se font actuellement, mais reste que, quand on parle d'une institution aussi grande, aussi vaste, aussi imposante que l'appareil public québécois, eh ben c'est pas non plus une solution qui sera facile à appliquer, donc d'où l'importance de bien y penser avant de se lancer.
Pas seulement d'avoir un Twitter gouvernement du Québec, là, ça va quand même plus loin que ça.
Ça va plus loin que ça, mais par contre c'est un départ et on le voit avec la ville aussi. Je suis sur Twitter justement, le Twitter de la ville de Québec. On a des nouvelles en direct du service des communications.
Ils sont très actifs, oui.
Ils sont très actifs. Il y a d'autres institutions et des ministères comme ça, le MDIE notamment, qui a un service Twitter. Donc on voit que cette dimension-là est en train d'être intégrée. Il faut dire qu'on n'a presque pas le choix. En fait, si on veut aller rejoindre les citoyens là où ils sont, ou à tout le moins une partie des citoyens, dans une époque où de plus en plus les gens n'utilisent plus les moyens papier ou les moyens traditionnels. On a vu passer récemment un article qui nous disait que la presse, d'ici 3 ans, pensait carrément mettre de côté le format papier pour aller avec le format tablette, iPad et autres succès d'année. J'ai vu aujourd'hui, ça circulait beaucoup sur les médias sociaux, justement, un rapport qui disait que pour la jeune génération, c'était clair, net et précis qu'au niveau publicitaire, autant qu'au niveau lectorat, les journaux avaient été supplantés par le web. Alors, si on veut aller rejoindre cette jeune génération-là et ces citoyens qui se trouvent sur le web, faut y être, et faut y être quand même de manière assez soulignée et assez intensive. Faut pas seulement y être un peu, faut y être complètement.
Qu'on s'y perd aussi rapidement parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de liens sur lesquels on peut cliquer. Justement, Twitter, on peut tellement suivre de gens. Si on est là, mais à moitié, on passe inaperçu.
Exactement. Tu n'es pas un compte qui est intéressant pour les gens qui y sont de manière plus intensive si tu as un tweet par jour ou par semaine.
On dit un tweet par jour, c'est pas suffisant quand même.
Non, quand même. Et donc, dans ce contexte-là, il y a quand même beaucoup d'avantages pour le gouvernement à se lancer dans cette aventure-là, dans la mesure où le gouvernement le fait bien entendu. Si je reviens à mon rapport de Deloitte, eux parlent notamment d'améliorer le résultat des politiques. Ils estiment que la collaboration gouvernementale en ligne encourage d'autres gouvernement, encourage les collectivités, des entreprises, des citoyens à participer au processus d'élaboration des politiques. Et là-dessus, eux vont chercher un exemple de Nouvelle-Zélande. En fait, les législateurs de l'endroit ont utilisé des outils de type wiki, donc style Wikipédia, où qu'on peut modifier, s'inscrire, discuter, pour élaborer un projet de loi. Donc, carrément, les citoyens étaient mis à profit. Si tu veux proposer quelque chose, tu veux développer, vas-y, le projet de loi est en ligne, modifie-le, débat-le. Donc, on va plus loin qu'une simple consultation publique et qu'un sondage en ligne, là. Deuxième élément, utiliser plus efficacement l'information gouvernementale. Donc, la collaboration gouvernementale en ligne doit être dynamique. Elle vise à rendre l'information gouvernementale plus accessible et à exploiter le potentiel des réseaux de savoir modernes. Exemple, en Colombie-Britannique, donc on n'est pas trop loin, on utilise MapQuest, donc le gros concurrent de Google Maps, et pour l'information liée à la circulation et au trafic que tu nous donnes, Tania, assez régulièrement ici à CKRL. Alors, tu vas sur ce site-là, il y a des données cartographiées de type MapQuest, Google Maps, mais mélangées avec l'information du ministère des Transports au niveau de la fréquentation des artères, parce qu'ils ont des problèmes terribles de trafic. Alors, ils se sont dit, si on rend l'information très accessible au niveau de qui est sur la route, quand et comment, dans ce cas-là, peut-être que les gens vont trouver d'autres chemins et ça va diminuer le trafic sur certaines artères.
Ben, ça serait bien parce que juste ici, pour avoir justement à chercher l'information sur la circulation, c'est pas facile, là. Je me base sur un site avec des couleurs. Il y a 3 couleurs. C'est beau, c'est congestionné ou c'est au ralenti. Donc, on fait ce qu'on peut, mais je pense que ce genre de trucs-là sont des bonnes idées. Mais par exemple, on dirait que moi, je serais pas nécessairement à l'aise à suivre, par exemple, le ministre des Finances qui parle des impôts avec un petit smiley. Par exemple, on parlait sur Twitter, la ville de Québec qui, des fois, fait des blagues de déneigement avec un petit bonhomme clin d'œil. Je sais pas, le gouvernement du Québec, ça va être aussi de se l'approprier, mais adéquatement.
Exactement, de se l'approprier adéquatement et trouver la manière d'aller entrer en contact avec les gens qui se trouvent sur le web. Et c'est pas nécessairement justement en faisant des références au langage Internet, mais je pense que c'est simplement essayer d'être plus accessible. En fait, le fait d'être là sur place, on pense à CNN qui fait des débats sur YouTube avec des candidats, notamment à la présidentielle. C'est ouvert à tout le monde, donc le gouvernement se rapproche l'ensemble des gens devient une entité qui est quand même plus palpable, qui a pas nécessairement besoin d'être personnifiée, personnalisée. Donc ça, c'est d'autres questions à débattre. Mais donc, il y a ça, donc attirer des meilleurs éléments, ramener les gens, ou amener tout court des gens vers la sphère politique.
Parce que là, on la délaisse.
Exactement. Et parallèlement, il y a aussi toute la question de rationalisation des opérations internes. Si on a plus de participation des citoyens, ben il y a moins d'intermédiaires qui vont être nécessaires. Et même à l'intérieur du gouvernement, de quelle manière on peut intégrer ce Web 2.0-là pour faire des plateformes de travail collaboratives, que ce soit à l'intérieur même du gouvernement, que ce soit entre gouvernements également. Alors, il y a plein de possibilités. Autour de ce rapport-là, on souligne l'importance, dans le fond, de ce changement. Et je crois que de plus en plus, les conclusions tendent justement vers l'importance de cette redirection-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment et de savoir quand. Et ça, ben, on peut continuer d'y réfléchir. Je pense que c'est un peu notre rôle aussi au niveau de la recherche, de proposer des solutions et de participer à l'élaboration des solutions qui seront mises en place. Ça, c'est un rapport de Deloitte. Il est d'ailleurs, je crois, toujours sur la page d'accueil de notre site itis.ulaval.ca. Allez dans l'onglet Actualité, vous devriez le trouver. Et ça, la question aussi du gouvernement 2.0, ben, c'est probablement un topic sur lequel on va revenir la semaine prochaine, Tania, puisque demain, à Québec, le CEFRIO qui organise un séminaire qui s'appelle le NetGouv sur justement l'offre de services gouvernementaux à l'ère numérique. Quelles sont les attentes des citoyens? Quelles sont les attentes des entreprises? Alors, je vais m'y rendre pour saisir un peu tout ça. Alors, ça sera à suivre lundi prochain. Et je fais une petite mention aussi en terminant, si tu me permets. Il y a les étudiants en sciences et génie qui organisent leur journée de la recherche. Ça a lieu demain. C'est pratiquement toute la journée, donc de 11h à 19h, dans le pavillon Alphonse Desjardins. La section qui est ouverte, heureusement
oui, ben
pour
oui.
eux. Nous, on y sera d'ailleurs, Litis, une présentation autour de 16h30 là-bas.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et on se reparlera donc de technologie de l'information la semaine prochaine à la même heure.